CDRC, le podcast. Le podcast.
Bonjour, je suis Florian Lavenu, manager général de la Convention des réseaux commerciaux. La CDRC est le premier événement hybride dédié aux équipes dirigeantes des enseignes. Alors si vous faites partie d'un réseau commercial et que vous travaillez dans le service développement, RH, juridique, financier, marketing ou immobilier, téléchargez dès maintenant votre pass CDRC sur le site cdrc.paris. Le pass vous donne accès à la plateforme digitale CDRC Connect et à une entrée à l'événement physique qui aura lieu le 17 juin 2021 à Paris.
CDRC, le podcast. Le podcast.
Écoutez le commerce s'organiser.
Et je suis ravi de recevoir pour ce premier épisode Emmanuel Leroc, le délégué général de la Fédération Procos. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel, on rappelle tout d'abord que Procos est la fédération représentative du commerce spécialisé. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu plus en détail?
Oui, en fait, nous sommes une association et nous regroupons 300 réseaux qui sont exploités en fait en succursale, en franchise, en coopératif. Et notre travail, enfin, ce sur quoi on travaille avec les enseignes, sur le marché français et sur les marchés étrangers, c'est de les accompagner dans leur développement, leur transformation. L'ADN de Procos initial, qui existe depuis très longtemps, c'est d'étudier le territoire, les polarités commerciales. Donc, c'est sur ce sujet qu'on fait des études, des indicateurs, et puis beaucoup d'échanges, hein, parce que je crois beaucoup à ça, entre les acteurs de nos enseignes.
Comme vous le disiez, c'est que vous accompagnez bien sûr au développement en France, mais aussi les enseignes à s'exporter.
Oui, tout à fait. Alors, le gros de notre travail reste la France, puisque malgré tout, pour les retailers français, même si nous avons beaucoup d'étrangers d'ailleurs dans notre association en France, le marché français reste essentiel. Mais c'est vrai que nous sommes implantés à Barcelone et nous traitons les marchés portugais et espagnols à partir de ce bureau. Et le reste du monde, entre guillemets, en fonction de l'intérêt de nos adhérents, est traité dans des réunions régulières et des échanges sur Paris. Et donc, nous étudions régulièrement tous les pays européens, évidemment, mais aussi en fonction des moments, de l'intérêt des enseignes, de la problématique de développement, des difficultés dans les différents pays, les différentes zones géographiques.
Est-ce que le commerce français s'exporte bien? Est-ce que les concepts français s'exportent plutôt bien? En dehors de l'aspect crise qu'on est en train de vivre actuellement, bien entendu, qui a mis un gros coup de ralentissement.
Oui, disons que la France a la chance de compter beaucoup de leaders européens, toutes les enseignes succursalistes qu'on connaît. Alors, dans certains secteurs, dans la plupart des secteurs, ils s'exportent bien. Il faut reconnaître qu'il y a eu un très très gros développement en textile, je dirais les 20 dernières années, qui forcément a connu un petit coup de difficulté depuis quelques temps, mais c'est lié plutôt au sujet global du textile et de l'habillement. Mais sinon, oui, il y a énormément de secteurs, l'équipement de la maison, la restauration, enfin plein d'autres d'ailleurs, sur lesquels on est en fait des très bons créateurs de concepts de retail.
Vous, Emmanuel, vous êtes délégué général depuis combien de temps pour Procos?
Je suis chez Procos en tant que délégué général depuis 4 ans, mais je suis administrateur de Procos, alors je n'ai même pas compté, mais depuis une quinzaine d'années, puisque j'étais auparavant, j'étais pendant 15 ans directeur du développement et de l'immobilier de Darty, et j'ai également eu la chance de construire des centres commerciaux, puisque j'ai dirigé la filiale qui le fait chez Bouygues Immobilier, ce qui me permet d'avoir une vision un peu globale des problématiques auxquelles se sont confrontés à la fois les exploitants, mais aussi ceux qui sont nos partenaires qui développent des projets de commerce en France et à l'étranger.
Alors justement, c'est exactement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que vous avez une vision quand même depuis plus de 20 ans de ce marché du commerce en France. Alors sans même rentrer encore dans la crise là que nous traversons, mais comment le commerce spécialisé a évolué? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ces 20 dernières années? Je ne sais pas, la digitalisation, l'arrivée d'Amazon?
À titre personnel, c'est Amazon, parce qu'en fait, dès 2000, quand j'étais chez Darty, on a vu Amazon débarquer, ce qui nous a obligés, bien avant la plupart des retailers français des autres secteurs, à trouver la manière de contrer l'arrivée d'un concept de e-commerce pur comme ça. Donc ça, c'est sûr que c'est un élément fondamental qui d'ailleurs a continué ensuite à à perturber, à compliquer les choses, mais c'est certainement la transformation digitale, c'est-à-dire que les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui de mettre en contact les clients et les produits de manière différente à ce qu'on pouvait faire avant. Donc, je dirais, au départ, c'est plutôt tétanisant, et puis au fil du temps, on se rend compte que c'est un formidable moyen d'être en contact avec les clients, de leur envoyer du contenu. Donc ça, c'est le deuxième élément très fort. Et puis, je dirais ensuite, c'est le développement. Enfin, je dirais, il y a eu quand même un très fort développement des enseignes, beaucoup d'ouvertures de magasins. Et ensuite, pour finir, parce que je pense que ça c'est un problème aussi de modèle, les augmentations, malheureusement, du coût moyen de l'immobilier qui en fait, a été soutenu par ce développement, soutenu aussi par une financiarisation de ce marché et qui, en final, finit quand même par compliquer les choses dans la mesure où ça pousse quand même des augmentations de coûts d'exploitation de manière assez forte.
Est-ce qu'il y a une bulle immobilière dans le commerce aujourd'hui ?
Enfin, mon sentiment, c'est qu'il y a des bulles aujourd'hui. C'est quoi une bulle ? En fait, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement être surcoté par rapport à la réalité de la vie économique. Et on sait qu'on est dans un monde très financier avec des taux d'intérêt très bas. Du coup, on voit bien que pour moi, l'immobilier commercial n'est pas plus une bulle que les startups. Quand on voit qu'on est capable de mettre énormément d'argent sur un peu du rêve, en fait, hein, sur une histoire qui est racontée, mais on se rend compte que ça aussi, ce sont des bulles, mais ce sont des bulles dans lesquelles les gens acceptent par principe de perdre de l'argent. Donc, l'immobilier est dans un autre contexte. L'immobilier a permis de croire pendant très longtemps que c'était un placement sans risque, puisqu'il a à la fois sur la logique d'évolution de l'offre de la demande et puis aussi de l'indexation, un certain nombre de choses comme ça, laissé penser les investisseurs que les arbres montaient au ciel. En réalité, c'est ça la bulle. En réalité, maintenant, on voit bien que en dehors même de la crise de la Covid, qui accélère quand même un certain nombre de choses et des difficultés, ponctuelles ou durables, on verra, la problématique de l'augmentation permanente des coûts immobiliers dans un modèle omnicanal qui doit faire du chiffre d'affaires avec le digital et donc à d'autres coûts que celui de l'immobilier n'a pas de sens. Donc, c'est pas une bulle obligatoirement. Enfin, la bulle n'existera que si les modifications interviennent de manière violente. Elles peuvent aussi intervenir de manière beaucoup plus sage, c'est-à-dire au moment où on se rend compte qu'il faut absolument revenir à des valeurs un peu plus raisonnables pour pouvoir permettre à chacun de gagner sa vie.
Justement, la crise de la Covid, on va en parler. On enregistre ce podcast tout début octobre. Comment se porte le commerce début octobre 2020 ?
Mais écoutez, comme il faut prendre les choses avec beaucoup d'optimisme, on va dire beaucoup mieux qu'en juin 2020. Puisque effectivement, pendant toute cette période de fermeture, on a tous pensé, dans le monde entier d'ailleurs, tous les analystes étaient d'accord sur le fait que la reprise serait extrêmement difficile dans le commerce et qu'on ferait des chiffres de l'ordre de moins 40% de ce qu'on faisait avant. Et en réalité, ça passait beaucoup mieux que ça pour l'instant, croisons les doigts. C'est-à-dire que dans certains secteurs notamment, comme le sport, l'équipement de la maison, la jardinerie, le bricolage, enfin pas mal de secteurs, la dynamique a été très présente. Alors, elle a été encore plus présente sur les canaux internet de nos enseignes, puisque il y a quand même une partie des gens qui ont des craintes de se déplacer en magasin, donc ils achètent sur internet. Bon, ça c'est la partie, de la réponse. C'est un peu plus compliqué, évidemment, dans des secteurs tels que la restauration, puisqu'ils subissent de manière plus violente les contraintes de distanciation. Et sur le textile, parce que le textile continue de combiner des problématiques un peu globales post-Covid et puis les conséquences du Covid. Donc, pas si mal, on va dire. Si l'année devait se terminer telle que les choses se passent aujourd'hui, je pense que ce serait une très, très bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes sur notre échantillon Procos depuis le début de l'année à moins 20, donc ce qui est évidemment pas génial, mais qui est bien mieux que ce qu'on avait anticipé. Donc, pas si mal.
D'accord, oui, parce que pour donner quelques chiffres, moi j'avais vu que août 2020 était à plus 3% versus août 2019. Là, les chiffres de septembre 2020, vu qu'on est tout début octobre, je ne sais pas si vous avez une vision de ces chiffres-là.
Alors, pas encore, malheureusement, mais ça ne saurait tarder. Alors, par contre, on a une inquiétude, des petits warnings qui se sont allumés après la rentrée scolaire, qui sont plutôt bon, préoccupants, c'est-à-dire notamment la baisse de fréquentation des magasins. On voit qu'il y a vraiment une inflexion après la rentrée scolaire, donc avec dans certains sites, notamment, notamment on sait que les métropoles sont plus en difficulté compte tenu du télétravail, de l'absence de touristes internationaux, de la peur des transports en commun. Donc c'est à peu près ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc et surtout nous, on est très attentifs à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent sur les conséquences de la COVID et le comportement des gens en matière de consommation, à la fois à cause de la crise sanitaire et puis des problématiques malheureusement qu'on connaît déjà, qui sont l'augmentation du taux de chômage lié au fait que ben, nous ne sommes pas le seul secteur en difficulté, loin s'en faut.
C'est vrai que le monde du commerce actuellement est en pleine ébullition avec la crise. Beaucoup fusionnent, disparaissent, se font racheter. Vous pensez que beaucoup d'enseignes vont disparaître?
J'espère que non. En fait, il y a une grosse, grosse résilience quand même, hein. Enfin, je veux dire, si on doit. En fait, ça tout dépendra pour moi de. Si on devait reconfiner, par exemple, si on prend des scénarios catastrophes, évidemment, un reconfinement aujourd'hui, on voit que les moyens mis en œuvre par l'État, notamment pour soutenir les entreprises en matière de chômage partiel et de PGE, ont été tels qu'on sait tous qu'on ne pourrait pas se le payer deux fois. Donc, le pire n'est jamais certain. Donc, admettons qu'on ne soit pas dans ce schéma-là. Si on est dans un schéma plus soft où on arrive à porter le masque et on arrive à être raisonnable et à avoir des effets moindres, non, je ne pense pas qu'il y aura tant de casques que ça. Il y aura évidemment des fermetures de magasins, notamment s'il n'y a pas d'alignement entre les coûts d'exploitation, c'est-à-dire les loyers, voire le chômage partiel du côté de l'État si jamais les chiffres d'affaires devaient baisser. Là, par exemple, on voit qu'ils l'ont fait pour la restauration, etc. Donc il y a une vraie sensibilité de l'État sur le sujet. Mais sinon, il y a quand même de la résilience. Moi, je suis admiratif quand même de la réactivité des acteurs du commerce, hein, pas seulement les enseignes, les commerçants, pour mettre en œuvre des services clients, click and collect, etc., dans une extrême rapidité. C'est-à-dire qu'on voit que quand on est acculé, on sait réagir et faire des choses. Bon, après, il y a tout un pan de petits commerçants. On ne sait pas toujours trop dans quelle situation ils sont. Et l'inquiétude qu'on pourra avoir, et on travaille nous là-dessus avec le gouvernement, c'est de faire en sorte de trouver des dispositifs qui rallongent le temps de remboursement des PGE, de manière à ce que la dette qu'ont pris les enseignes et les commerçants avec le PGE ne soit pas pénalisante pour l'avenir. Et un remboursement sur 5 ou 6 ans, c'est trop rapide pour pouvoir permettre aux acteurs à la fois de rembourser et de mettre en œuvre les investissements nécessaires pour transformer leur modèle.
Beaucoup disent que c'est une phrase un peu toute faite, mais moi je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Tout le monde dit que les réseaux qui disparaissent, en gros, c'est les réseaux qui allaient mal avant la crise. Vous en pensez quoi?
Je sais que ça a été beaucoup dit. Disons que, évidemment, les réseaux qui étaient en difficulté, notamment avec des niveaux d'endettement très élevés, forcément, ils ont trébuché plus vite. Donc ça, je dirais, ça c'est bon. Ok, admettons que ce soit vrai, mais moi je suis très prudent dans ce type de propos parce que en fait, il faut pas grand-chose aujourd'hui pour que des entreprises, même en bonne santé, trébuchent si elles ont plus de trésorerie, même si leur modèle tenait la route avant. Donc je pense qu'il faut, enfin pour moi, quand on tient ce type de propos qui se voudrait probablement rassurant, un peu darwiniste en disant bah ouais mais c'est comme ça, voilà c'est dommage mais c'est comme ça. Bon, en fait soit c'est de la méthode Coué, soit c'est de l'imprudence. On n'est pas du tout à l'abri aujourd'hui que des concepts superbes se cassent la figure parce que malheureusement en restauration, prenons le cas de la restauration, et là enfin je veux dire, même les acteurs les plus brillants, si jamais ils sont pas accompagnés dans les mois qui viennent, forcément il y aura de la casse. Même des concepts qui étaient totalement rentable avant. Il y avait énormément. Vous savez que la restauration était en plein développement avant la COVID. La restauration est un dispositif sain, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'après la COVID, on retournera tous au restaurant comme avant. Mais par contre, il faut passer l'étape.
Quelle est votre position par rapport au plan de relance?
Alors déjà, nous, enfin, si on veut être très positif, on est quand même admiratif de la réactivité de l'État. au moment du confinement. Si on n'avait pas eu à l'époque le chômage partiel de masse et derrière les PGE, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Donc ça, je pense qu'il faut reconnaître ça. Ensuite, le plan de relance, pour nous, il a malheureusement, hein, il a une connotation très industrielle, trop industrielle. C'est-à-dire que évidemment, la partie industrielle est totalement défendable, mais un secteur comme le commerce, qui est un secteur pour nous d'avenir, est très important pour les territoires compte tenu de ce qu'il représente en matière d'emploi. C'est un peu choquant de même pas le voir en filigrane dans ce type de plan. Bon, il y a quand même la vision TPE-PME qui est quand même un peu plus soutenue. Bon, c'est dommage que cette logique, en tout cas d'apparition du commerce comme étant un secteur à la fois d'avenir et important pour la transformation sociétale, puisque c'est le commerce le plus proche du consommateur, n'apparaissent pas. Voilà. Bon, après, la critique est facile, c'est beaucoup de moyens, 100 milliards d'euros. Donc écoutez, on fera en tout cas, nous, tout ce qui est en notre possible pour que nos enseignes puissent se transformer. On continue de travailler avec le gouvernement pour améliorer les choses dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, notamment sur le sujet de la transformation omnicanale, mais aussi des sujets de type baisse de consommation d'énergie, travaux pour la consommation d'énergie, notamment sur les magasins, qui n'apparaît pas, malheureusement.
Il y a un autre sujet, je ne sais pas si vous pouvez nous en toucher deux mots, mais c'est la TASCOM.
Oui, donc la TASCOM, c'est une taxe qui, pour faire très simple, s'applique au commerce dans les surfaces sont supérieures à 400 mètres carrés, pour faire simple. Il y a des cas particuliers, notamment pour les très vieux magasins, les grands magasins en centre-ville, par exemple, mais qui ont été ouverts avant 1960. Donc, c'est une taxe qui ne porte que sur le commerce, dont le montant collecté est d'un milliard d'euros par an. Effectivement, on se bat, nous, depuis plusieurs années pour faire baisser ce qu'on appelle les impôts de production. Donc, vous avez vu que sur le plan de relance, il y avait une baisse d'impôts de production de l'ordre de 10 milliards d'euros. Malheureusement, sur ces 10 milliards, il n'y a que 13% qui concerne le commerce, c'est 1,3 milliard. Et on a donc demandé à ce que, en plus de ces 1,3 milliard, la TASCOM soit un impôt annulé, puisque l'impôt par nature l'impôt de production par nature du commerce, c'est la TASCOM. Enfin, c'est un des impôts, en tout cas, par nature du commerce de production.
Cette fameuse crise, on va en sortir un petit peu, on va essayer de parler du futur. Tout le monde fantasme, je ne sais pas, d'un monde nouveau, du monde d'après. Est-ce que vous pensez vraiment qu'au niveau du commerce, en tout cas, il y aura un monde d'après la crise ?
Alors, je pense qu'il y aura un monde d'après, parce que si on considère que c'est un monde un peu transformé, ce ne sera pas exactement le même monde que celui d'avant. Par contre, est-ce que ce sera un monde de manière complètement différente de celui d'avant ? Ça, j'y crois pas. Mais par contre, il y a des choses qui auront été profondément modifiées et accélérées, qui se seraient faites de toute façon, mais on en parle beaucoup. Bon, le taux de pénétration du e-commerce, de l'outil e-commerce, donc ça c'est sûr, hein, mais pas seulement les pure players, aussi les enseignes. Ça c'est sûr qu'on sera passé probablement de 15%, enfin de 9% pardon, moyen. À une quinzaine de pourcents de manière accélérée, alors qu'on aurait mis probablement 3 ou 4 ans à y arriver. Donc ça, c'est un sujet. Deuxième sujet, c'est sûr, on est au cœur d'un mouvement sociétal qui n'a rien à voir avec la Covid, qui est le sujet de plus de responsabilité, de moins de gaspillage. Donc ça se sera forcément accéléré dans une partie de la population. Je ne crois pas que ça touchera tout le monde pour une raison y compris malheureuse, qui est celle qu'une partie de la population aura perdu du pouvoir d'achat. Donc certains oublient parfois de dire qu'il y a une partie de la population qui restera très attachée au prix. Donc, de toute façon, on va être dans une bipolarisation des consommateurs au moins pour plusieurs années. Et puis, il y a aussi toujours le plaisir de consommer. Tout le monde n'est pas dans un schéma de dire c'était parfait le confinement, on pouvait rien faire et continuons à rien faire. Je pense qu'on n'est pas, je suis caricatural, mais oui. En tout cas, on n'est pas dans ce schéma-là. Et puis, pour finir, parce que ça, c'est très important, on ne sera pas, puisqu'on parle beaucoup de digital, parce que les choses évoluent plus vite dans le digital, mais rappelons quand même une fois de plus que le commerce, enfin le magasin reste le générateur de 85, 80 ou 90% du chiffre d'affaires de tous les acteurs du commerce. Donc là aussi, il ne faut pas se tromper de débat. Mmh. Évidemment, il faut faire du digital. Évidemment, il faut investir sur le numérique. Mais si on n'est pas bon dans son offre ou si on n'est pas bon dans son exploitation physique, faire du digital ne sert à rien.
Dans ce monde d'après, moi, il y avait des thématiques un petit peu. Je voulais savoir et avoir votre point de vue et savoir si vous avez discuté avec des enseignes et si c'était la réalité. Relocalisation de la production, marché de la seconde main, le bio, production éthique. Est-ce que vous voyez les enseignes bouger là-dessus et accélérer ?
Ah oui, sur la seconde main, oui, de manière évidente. Hein, je dirais qu'il y a deux sujets sur la seconde main. Il y a une modification de la réglementation avec la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui interdit, et c'est très bien, à qui que ce soit de jeter des produits. Donc ça oblige à faire des produits réparables pour l'électroménager, de faire des produits moins jetables, etc. Ou de leur trouver une autre vie à travers la seconde main. Bon, Vinted, en tant que site, a montré comment ça pouvait être performant. Et aujourd'hui, les enseignes, évidemment, sont sur ce sujet. Certaines enseignes sont sur la location pour les clients qui ne voudraient pas acheter les produits de manière pérenne. Il y a énormément de travail qui est fait là-dessus. Le sujet de la provenance des produits, je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'on a vu comment une crise comme la Covid pouvait mettre en danger des modèles économiques compte tenu de la distance et de la chaîne logistique et de la dépendance à l'Asie en termes de production. Donc il y a deux raisons de rapprocher, on va dire. Moi, je dirais même pas que du Made in France, parce que je crois qu'on devrait raisonner plus largement que le Made in France, au moins au niveau européen. Ne parler que du Made in France, c'est avoir l'impression que le marché français est suffisamment important pour développer toutes les activités, ce qui n'est pas vrai. Donc après, c'est politiquement intéressant, mais par contre, c'est économiquement insuffisant. Et donc, c'est un peu d'ailleurs la même chose sur le plan de relance. En réalité, hein, je pense que oui. Il faudrait mieux raisonner au niveau européen parce que ça massifie. Ce n'est pas la même chose quand on parle de 60 millions de Français ou de 350 millions d'Européens. Donc là-dessus, oui, ça génère des changements. La manière dont les produits sont conçus, il y a beaucoup, beaucoup de travail fait par les enseignes, y compris sur des sujets de principe, de raison d'être, d'entreprise à mission, de RSE. Après, toute la question, ce sera de voir est-ce qu'elles vont communiquer là-dessus ou est-ce qu'elles vont le faire avec beaucoup de prudence, parce que les consommateurs c'est très dangereux, en fait, c'est toute la difficulté de s'exprimer sur ces sujets-là, parce qu'on est vite rattrapé par la patrouille pour un autre sujet qu'on ferait moins bien, etc. Donc c'est toute la difficulté de la combinaison de notre monde entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Donc oui, ça quand même, je pense que c'est cette notion de prise de conscience qui dépasse largement le retail, hein, qui aussi va vers les consommateurs et chacun d'entre nous, de faire plus attention à la planète, ça c'est une réalité quand même. Après, il y a le modèle économique en face. C'est-à-dire qu'une des difficultés qu'on a tous, c'est que les consommateurs disent je suis d'accord de payer plus cher, mais quand on lui demande combien, c'est 10%. Donc ça pose des problèmes, puisqu'il faut à la fois probablement moins vendre pour ne pas gaspiller, vendre mieux, enfin en tout cas des produits de meilleure qualité, mais guère plus cher. Donc c'est ça qui est très compliqué et en tout cas pas faisable juste en claquant des doigts à court terme. Donc oui, il y a un vrai travail. Après, on a tous bien en tête que les modèles très discount, Action, ou des gens qui vendent vraiment toujours des produits de qualité, mais de l'année précédente, comme Stockomanie, etc., sont très performants, alors même qu'eux, ils ne parlent pas de digital ou de quoi que ce soit. Ils sont sur une logique d'une offre prix très claire pour le consommateur et où il se fait plaisir en achetant des choses, même si elles ne sont pas chères.
Alors, autre sujet intéressant de ce monde d'après, c'est la proximité. Alors, on entend là un peu partout en ce moment le concept de la ville du quart d'heure. Donc, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin à un quart d'heure maximum de mon domicile. Alors, question simple, mais est-ce que c'est la fin du commerce en périphérie ou des centres commerciaux ? Est-ce que le centre-ville, c'est le nouvel Eldorado, quoi ?
On va commencer par la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est un concept, en fait. C'est de dire, Je veux que les gens qui habitent dans un endroit, ils travaillent et ils achètent tout ce qu'ils ils peuvent accéder à tout ce qu'ils veulent à moins d'un quart d'heure. Premièrement, en termes de commerce, ça c'est sûr que c'est pas possible. Ou alors, ça va vouloir dire que c'est un commerce, c'est une ville du quart d'heure complètement engorgée par la logistique. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que sur un quart d'heure, je peux acheter mes meubles, je peux acheter ma machine à laver, etc., mes voitures. Et en réalité, et donc, si c'est le cas, ça veut dire que comme les magasins n'existeront pas dans le quart d'heure, ça veut dire que je les fais venir jusqu'à chez moi. Donc, c'est des concepts marketing. Après, qu'il y ait une logique de rapport à la proximité, c'est possible. Ce qui est sûr aussi, c'est que ça veut dire, une ville du quart d'heure, ça voudrait dire être capable de tout remettre en cause, y compris de dire, en gros, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de zone de bureau non plus, parce qu'il faut que les gens ils télétravaillent et ils restent tous chez eux. En fait. Donc, je ne sais pas si, la période de Covid, on a trouvé ça si génial de rester chez nous tout le temps. En tout cas, je ne suis pas sûr que rien ne nous ait manqué. Donc, je pense que au-delà des concepts, ça va être entre les deux. Ça va être entre la vie d'hier et la vie de demain. Aujourd'hui, on voit bien que les gens ils ont goûté au télétravail. Et donc ça va assez fortement modifier deux ou trois choses. L'attractivité des zones de bureau, leur taux d'occupation, et donc par voie de conséquence, leur consommation lorsque les gens sont au bureau. Ça va modifier le flux de transport en commun, donc les flux dans les gares, dans les stations de RER, etc., et donc le commerce qui est associé. On sait que ça modifie très fortement, pour une durée assez longue, les aéroports.
Oui, tout ce qui est lié au travel retail aussi.
Oui. Parce qu'en fait, là où c'est compliqué, c'est la période qu'on vit, qui est une période de... En fait, on met un terme au flux, en fait. Il faut que les gens bougent le moins possible, parce qu'il faut que pour qu'un virus ne bouge pas, il faut que nous, on ne bouge pas, en fait. Ça revient à ça. Est-ce que ça, on est condamné à faire ça pendant tout le temps, ou est-ce qu'une fois que le virus sera passé, et je dirais quelques temps après, parce qu'on a une faculté d'oubli, on reviendra à autre chose? Moi, je pense, je ne sais pas si c'est bien, mais j'ai peur qu'on revienne à autre chose. Enfin, peur. En tout cas, il y aura d'autres incitations. On a une faculté d'oubli importante. On est quand même dans un monde de la consommation dont il sera assez compliqué de sortir violemment. Et on est aussi dans un monde de la mobilité. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que demain, on ait tous envie de rester en France pour toutes nos vacances, etc. Donc, c'est pas parce... là, on est sous le traumatisme. Est-ce que ce traumatisme, il va tout remettre à plat complètement? Je ne crois pas. Est-ce que c'est le moment d'en profiter pour faire des choses mieux? Oui, ça, je le crois.
Dernière question de notre entretien. Est-ce qu'il faut rester confiant et positif au niveau du commerce? J'imagine que oui.
Alors, au niveau de, si on se parle commerce en général et magasin en particulier, c'est sûr que oui. J'ai aucun doute là-dessus. Après, est-ce qu'il va y avoir des impacts sur certaines zones, sur certains lieux? C'est sûr que oui aussi, hein, parce que on sait bien qu'il va y avoir des impacts liés à la crise elle-même économique, donc où certaines villes vont plus souffrir que d'autres, hein, pour des raisons avant tout de fermeture d'usines, etc. Et puis des sites qui sont un peu mis en suspens, des grands sites commerciaux, parce qu'effectivement, alors que ces sites-là, on ne les mettait pas en doute par le passé, on pourrait se dire que l'appétence pour les gens d'aller sur des lieux où il y a beaucoup, beaucoup de monde soit durablement impactée par ce qu'on vit. Donc, voilà, après, donc, ce sera des adaptations. Qu'il y ait des acteurs pour faire du retail, j'en suis sûr. Le petit problème qu'on a, qui n'est pas neutre, hein, c'est qu'en ce moment, c'est très compliqué de trouver des financements pour le retail, parce que c'est un secteur qui est en tel bouleversement que les gens se font peur. Lorsque on retrouvera des financements, lorsque les gens auront compris que pour faire du commerce, il faudra toujours des lieux physiques, donc de l'immobilier, et pas simplement de la logistique. Sinon, il faut se préparer à faire une vie de l'excellence logistique et de la livraison à domicile. Mais là, je ne sais pas qui rêve de ça.
À mon avis, pas grand monde. Merci beaucoup Emmanuel Leroc de nous avoir accordé ces minutes. C'est un réel plaisir d'échanger sur ces sujets de marketing, de proximité, de financement et de stratégie. C'est donc des thématiques que vous pouvez retrouver lors de la convention des réseaux commerciaux. On aura le plaisir de vous retrouver à la fois sur la plateforme Digital CDRC Connect, mais aussi en vrai et en physique le 17 juin 2021 au Palais Brongniart à Paris. Merci beaucoup Emmanuel.
Merci beaucoup et puis bon lancement de cette plateforme.
CDRC, le podcast.
Écoutez le commerce s'organiser.